Timothée, chapitre 6, à partir du verset 11. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. Je t'ordonne devant Dieu qui appelle toutes choses à l'existence et devant le Christ Jésus qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate que tu gardes ce commandement sans tache, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle le bienheureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent, montrera au temps propre, lui qui seul possède l'immortalité, qui habite la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu ni ne peut voir, auquel soit honneur et force éternelle. Amen.
La dernière fois, nous avons vu les versets 9 et 10 de ce chapitre 6. Ces versets nous montrent que, au fond, l'apôtre nous met en garde contre un esprit d'impiété et d'indépendance à travers, ici, l'amour des richesses. Nous avons le danger de ne plus même s'attendre à Dieu dans les besoins journaliers, mais avoir comme des idoles dans les richesses de ce monde. L'amour de ces richesses, verset 9, est un piège pernicieux dont il est difficile de se défaire. Il ôte la saveur de la foi, il nous rend aveugles sur la volonté de Dieu et nous sommes alors indépendants. Nous nous confions dans les richesses plutôt que sur le Seigneur en dépendance. Nous avons rappelé le modèle du Seigneur. Lui était possesseur de toutes choses, mais dans sa vie, il a été le pauvre, le dépendant du Père et même celui qui était dépendant des hommes. Nous avons aussi le modèle de l'apôtre Paul qui a dit qu'il avait appris à être dans l'abondance et dans les privations. Il savait vivre chaque chose avec le Seigneur. Il l'avait appris, il était dépendant. Nous avons commencé le verset 11, « Mais toi, fuis ces choses ». Nous avons dit que l'amour des richesses, il faut le fuir. La sécurité dans ce qui plaît à la chair, ce n'est pas dans le combat, mais c'est dans la fuite. Nous n'avons pas la force de combattre contre ce qui plaît à la chair, mais nous devons fuir, nous ne pouvons pas résister devant ces choses. Nous avons dit quelques mots seulement sur l'homme de Dieu, mais toi, ô homme de Dieu, nous avons dit qu'il est caractérisé par la piété, qu'il est plein de foi, qu'il suit le Seigneur, qu'il a une force morale, qu'il a le courage de s'identifier aux intérêts du Seigneur, même dans un système difficile, opposé, et que c'est le représentant de Dieu, qu'il est pour Dieu. Peut-être revenir sur ces choses.
Dans les versets 11 et 12 de 1 Timothée 6, nous voyons que Timothée est exhorté à quatre choses. Et dans ces quatre choses, il y a un ordre moral. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que l'apôtre appelle Timothée un homme de Dieu. Et c'est une très haute appréciation de la part de l'apôtre d'appeler son enfant un bien-aimé, Timothée, un homme de Dieu. Quel qualificatif ! Une remarque, entre parenthèses, c'est que dans le terme grec, ô homme de Dieu, c'est neutre. Ça peut qualifier aussi bien un croyant qu'une croyante. Qu'un homme ou qu'une femme. C'est-à-dire, ce qualificatif de homme de Dieu ne s'applique pas seulement aux frères ou aux chrétiens hommes en général. Et ce qui est de remarquable, si nous regardons dans l'Ancien Testament, comme aussi ce qualificatif que nous retrouvons dans la deuxième épître à Timothée, ce terme est employé quand il y a un manque général à la responsabilité collective. Et cela montre au fond que dans un état de ruine ou dans un état de décadence, eh bien, Dieu suscite des hommes de Dieu qui le représentent. Et ce sont des croyants qui ont la force morale et le courage de s'identifier aux intérêts du Seigneur pendant ce temps difficile. C'est-à-dire que pour mener le combat de la foi dont il est parlé dans ces versets, eh bien, un homme de Dieu, eh bien, il doit d'abord fuir des choses et poursuivre d'autres choses pour avoir cette capacité donc de représenter Dieu et en particulier dans le combat de la foi. On peut ajouter, suite au résumé qui a été fait, qu'un homme de Dieu, bien sûr, le représente. Et il est présent dans des circonstances difficiles de la part de Dieu. C'est-à-dire, il y a quelqu'un dans ces circonstances difficiles qui va le représenter. Et donc, il est là de la part de Dieu et pour Dieu, comme nous l'avons dit. C'est-à-dire, il est son témoin et son ambassadeur. Et ce qu'il y a de remarquable dans ces quelques termes, il doit fuir quoi ? Il doit fuir ce qui est opposé au caractère de Dieu et poursuivre ce qui le glorifie pour pouvoir le représenter.
Simplement trois points. Mets-toi au homme de Dieu. On peut se poser une première question, et Michel y a déjà répondu. Est-ce que tous les croyants sont des hommes de Dieu ? Non, parce qu'ils doivent manifester. Un homme de Dieu manifeste ses caractères. C'est autre chose qu'un homme en Christ, selon cette expression qu'on trouve dans 2 Corinthiens. Un homme en Christ, que les frères me corrigent, c'est faux. C'est quelqu'un qui s'est reconnu pécheur devant Dieu et qui a cru que Jésus-Christ a porté à sa place le jugement qu'il méritait. Et s'il y avait quelqu'un ici dans cette salle qui n'est pas un homme en Christ, nous disons d'abord que tout ce qu'il entendra cet après-midi, il ne le comprendra pas. Et nous aimerions simplement faire cet appel. Si tu ne t'es pas reconnu pécheur devant Dieu, si tu n'as pas cru que le sang de Jésus-Christ lave tes péchés, eh bien tu vas au-devant de la condamnation éternelle. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Un deuxième point. Un homme de Dieu, est-ce que c'est un frère ou une sœur qui a vécu des années avec le Seigneur, des décennies, qui a une grande connaissance de la parole? On a la réponse ici, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, dont il est dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'était un jeune, littéralement. Et alors, un troisième point, peut-être une considération plus pratique. Le premier caractère de cet homme de Dieu, ici en l'occurrence Timothée qui était jeune, c'est qu'il devait fuir ces choses. Celle qui nous est dit au verset 9 et 10, le fait de vouloir être riche et l'amour des richesses. En France, en Allemagne et en Suisse, c'est un peu pareil. On n'a même pas 18 ans qu'on doit déjà choisir des études, le choix d'un travail. Et la question se pose, quel est ton critère ? Est-ce que c'est de vouloir gagner beaucoup d'argent, de vouloir être à l'aise d'un point de vue financier ? Ça commence tôt. Fuir ces choses, ça commence tôt. Après, il y a poursuivre. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses. C'est pas à 40 ans, on l'a dit, c'est un piège, le verset 9. Il n'est jamais trop tard pour changer, mais ça commence tôt. Ô homme de Dieu, fuis ces choses.
Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 17. Projet pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre.
Toute écriture est inspirée de Dieu. Ce qui va donner la force à un homme de Dieu, c'est la soumission aux saintes écritures. Et toute parole que nous avons entre les mains est inspirée de Dieu. Surtout n'écoutons pas quand on nous dit que l'inspiration des Écritures est dans la parole. C'est détourner le tranchant de la parole de Dieu. L'homme de Dieu, c'est celui qui se soumet à la parole de Dieu. Fuis. Ici, c'est fuyez l'amour de l'argent, fuyez le désir de devenir riche. Mais il y en a d'autres, il y a d'autres fuites dans la parole. On peut peut-être juste les rappeler rapidement. Dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 6, verset 18, fuyez la fornication. Injonction très courte, très forte. Ça commence où, la fornication ? Dans les pensées. Rejeter, fuir. Ne pas parler avec. Chapitre 10, verset 14. Mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Et c'est en rapport avec la table du Seigneur. Et chapitre 11, la scène du Seigneur. Fuyez l'idolâtrie. Pas jouer avec l'idolâtrie. L'idolâtrie et rendre culte à Dieu, c'est incompatible. Il faut vraiment qu'on se le mette dans nos cœurs. Je ne peux pas rendre culte à Dieu si j'ai pris une idole et que je la caresse dans mon cœur. Je ne peux pas être un homme de Dieu. Et puis, 2 Timothée 2, verset 22. Mais fuis les convoitises de la jeunesse. C'est adressé, justement, comme on vient de le rappeler, c'est adressé à quelqu'un qui était jeune. Mais fuis les convoitises. Laisse tout ça, tout ce qui mène ce monde, ces convoitises-là, laisse-les. Fais confiance à Dieu dans ta vie. poursuivre. On poursuit quelque chose qu'on risque de perdre. Si on n'a pas l'énergie et le courage de poursuivre, de rechercher ce que la parole nous enseigne, on risque de le manquer. Poursuivre demande un effort, une énergie spirituelle. Il y a un verset sur la piété, exerce-toi toi-même à la piété. C'est ça, poursuivre. Puis ensuite, combat le bon combat de la foi. Il y a un combat à livrer et l'homme de Dieu connaît ses combats, les accepte de la part de Dieu, les traverse avec Dieu. Et puis ensuite, saisit la vie éternelle. Il y a deux pensées. Nous avons été saisis par le Christ. Épître aux Philippiens, chapitre 3. J'ai été saisi par le Christ, mais je poursuis, cherchant à le saisir. C'est donc dans Philippiens 3, verset 12. Je ne suis pas encore parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Un homme en Christ, c'est quelqu'un qui a été saisi par le Christ. Mais là, on a quelque chose de plus. Je poursuis, cherchant à le saisir, comme s'il y avait des obstacles qui risquent de m'empêcher de poursuivre. Alors, on tend avec effort vers les choses qui sont devant. Poursuivre.
Encore une autre chose que nous devons fuir, nous le trouvons dans Jean 10, des paroles du Seigneur lui-même. Dans Jean 10, à la fin du verset 4, donc le berger qui va devant ses propres brebis, il les met dehors, il va devant elles, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix, mais il est ajouté, mais elles ne suivront point un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Dans la chrétienté aujourd'hui, il y a beaucoup de voix, et donc nous devons connaître la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. La connaître, se l'approprier dans nos cœurs, dans nos consciences, bien la connaître. Et si nous la connaissons bien, eh bien, ces voix qui pourraient se manifester dans la chrétienté aujourd'hui, eh bien, ne suivront point un étranger. Un étranger, ce n'est pas la voix de Christ, c'est une autre voix. Mais au contraire, elles s'enfuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Encore une remarque, ce qui a été dit tout à l'heure en rapport avec l'homme de Dieu. Et donc, nous avons souligné que l'apôtre s'adresse à Timothée. Et si nous lisons la page avant, dans 1 Timothée 4, nous voyons aussi quelque chose des caractères d'un homme de Dieu, même, et nous l'avons souligné, il n'y a pas d'âge, au fond, pour être un homme de Dieu. Au verset 12 du chapitre 4, il nous est dit que personne ne méprise ta jeunesse. Et voilà ce qu'est un homme de Dieu. Il est un modèle pour les fidèles. Il est un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Donc si nous avons des choses à fuir, Eh bien, nous en avons d'autres à poursuivre. Alors peut-être qu'on peut parler de ce que nous devons poursuivre. La première de ces choses, c'est la justice. Nous souvenons tous du psaume 23. Il nous est dit de marcher dans des sentiers de justice. C'est-à-dire, c'est un sentier où le mal n'entre pas et ne peut pas entrer. Et c'est un sentier, les sentiers de justice, c'est un sentier dans lequel on marche, où nous avons l'appréciation de notre Dieu. Et nous savons que pratiquer la justice, marcher dans des sentiers de justice, eh bien c'est une cuirasse en la présence des adversaires que nous pourrions rencontrer dans ce sentier. Il nous est dit aussi de poursuivre la foi. Et ici, la foi, c'est la foi qui regarde et qui saisit les choses invisibles. Et curieusement, et c'est un paradoxe bien sûr, il faut voir les choses invisibles. Et ce sont ces choses qui sont en Christ qui est l'objet de notre foi. Et la foi, elle tient pour vrai tout ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et c'est quelque chose sur laquelle il nous faut toujours nous arrêter. Ce que nous dit la parole de Dieu, eh bien, il faut toutes ces paroles, il faut les saisir par la foi et les tenir pour ce qu'elles sont, des choses vraies. Poursuivre l'amour, il nous est dit, c'est avoir de saintes affections pour notre Dieu et Père et pour notre Sauveur et notre Seigneur. Aussi avoir des saintes affections dans le cadre de l'Assemblée et la famille de la foi. Et ne pas oublier que l'amour est toujours inséparable de la sainteté et de la vérité. Nous ne pouvons pas séparer l'amour de la sainteté et de la vérité. Il nous est parlé de la patience. Pour l'homme naturel, c'est bien sûr quelque chose d'inconnu. Et nous savons que la patience est tellement nécessaire pour supporter les épreuves et les difficultés que nous pouvons rencontrer. La douceur d'esprit, il nous est parlé dans la première épître de Pierre d'un esprit doux et paisible. Et toutes ces qualités que nous avons à poursuivre sont des caractéristiques du royaume de Dieu. Et elles ne s'acquièrent pas par hasard, elles sont à rechercher et elles impliquent un exercice de nos âmes et la détermination de nos cœurs pour les acquérir. Et nous devons, si nous avons ce saint désir de marcher devant Dieu avec son approbation, eh bien cela implique et cela impliquera toujours donc cette détermination de l'âme pour acquérir toutes les qualités qui sont nommées ici.
Sur la poursuite de la piété, pourrions lire quelques versets dans cette épître qui nous parle de cette piété en action. Le chapitre 2, verset 2, que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. La piété ne concerne pas certaines parties de notre vie, mais toutes tout ce qui est placé devant nous peut être accompli avec ce caractère de la piété de nos relations avec Dieu. Chapitre 3. Le mystère de la piété est grand, verset 16. Dieu a été manifesté en chair. C'est un sujet insondable. Mystère de la piété, ce qu'on a un peu vu ce matin dans ce qui concerne les souffrances de Christ. Mystère de la piété est grand. Ce sont des choses profondes. Chapitre 4, verset 8. Exerce-toi toi-même à la piété. L'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toute chose, ayant la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Exerce-toi toi-même, c'est une recherche personnelle, c'est un effort pour vivre selon cette piété, pour faire intervenir cette qualité dans nos relations avec le Seigneur et aussi avec nos frères et sœurs. Chapitre 5, les sœurs, verset 4. Qu'elles apprennent premièrement à montrer, les sœurs veuves, leur piété envers leur propre maison et à rendre à ceux dont ils descendent les soins qu'ils en ont reçus. La piété se montre dans les relations familiales. Et puis on arrive à ce verset 11. Poursuis la justice, la piété. C'est traverse toute l'Écriture ce sujet de la piété. Que nous puissions rechercher ces choses avec diligence, avec joie, dans le désir de ces caractères qui concernent l'homme de Dieu. Je pense à un caractère, Élie, qui était homme de Dieu. L'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Caractéristique d'un homme de Dieu, s'il se tient devant Dieu.
Épître à Tite, chapitre 2, versets 11 et 12.
À Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Car la grâce de Dieu qui t'apporte le salut est apparue à tous les hommes. Nous enseignons que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement.
Encore le verset dans 1 Timothée 6, il nous est dit au verset 3, il nous est parlé de la doctrine qui est selon la piété. Et si nous revenons au chapitre 4, nous voyons que, avant d'être exercé soi-même à la piété, il y a le lien avec la nourriture. Verset 6, il nous est parlé « Tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprise. » La doctrine qui est selon la piété. Il faut nous nourrir de la doctrine qui est selon la piété. C'est-à-dire, la bonne doctrine ou la saine doctrine, elle va me rapprocher de Dieu. La mauvaise doctrine va m'éloigner de Dieu. Et ce qu'il y a de remarquable dans ce qui nous est dit à propos des saines paroles, 1 Timothée 6 toujours, des saines paroles, à savoir celles de notre Seigneur Jésus-Christ et de la doctrine qui est selon la piété, eh bien ces paroles, si nous nous nourrissons de ces paroles de foi et de la bonne doctrine, elle va faire progresser ma relation avec mon Dieu et avec mon Seigneur. Il faut que nous soyons nourris de ces paroles de la foi, des paroles de Jésus-Christ, des paroles de la saine et de la bonne doctrine. C'est ça qui va me rapprocher de Dieu. Et est-ce que nos âmes ont à cœur de se nourrir de la vérité? Parce que ce sont des paroles de vérité. C'est-à-dire, au fond, ce que Dieu veut me dire dans ma vie de tous les jours, bien, ce n'est pas un simple exercice intellectuel. Être nourri, c'est quelque chose que je vais assimiler. Je vais assimiler ces choses dans mon cœur, dans mon âme, dans ma conscience. Et ces paroles, eh bien, comme nous l'avons vu tout à l'heure, eh bien, toute écriture est inspirée de Dieu. Eh bien, ces paroles vont m'enseigner, me convaincre, peut-être me corriger, m'instruire dans la justice. Et nous voyons que si nous voulons avancer dans notre relation d'intimité avec notre Dieu et avec notre Seigneur, il n'y a pas d'autre chose que de se nourrir de la bonne parole, de la bonne parole, de la parole de Dieu. Être nourri de des paroles de Jésus-Christ, de la bonne doctrine, de la sainte doctrine. Il n'y a pas d'autre chose. Ce n'est pas la peine de chercher une autre nourriture religieuse que nous pourrions trouver ailleurs. La parole de Dieu est là pour nourrir nos âmes. Et ce qu'il faut aussi bien noter, c'est qu'on n'apprend pas du jour au lendemain. Si je me nourris, il y a tout un processus d'assimilation. Et nous avons besoin d'autres. Et nous avons besoin d'être enracinés dans les doctrines de la foi chrétienne. Et donc, c'est tout un travail dans nos âmes qui dure toute la vie. On ne peut pas entrer dans la parole de Dieu du jour au lendemain avec un exercice intellectuel.
Le mot « poursuivre » suppose qu'il y a eu un commencement déjà avant. C'est quelque chose qui est déjà commencé, c'est une marche qui est déjà engagée et qu'il s'agit de poursuivre, de prolonger, de continuer. Et je voudrais juste m'arrêter, pas juste évoquer, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu parallèle, les premiers chapitres du livre des Proverbes où on a ces instructions qui commencent toujours « Mon fils ». Chapitre 2, par exemple, au début du paragraphe. « Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu caches par devers moi mes commandements pour rendre ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles le discernement, si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, que tu la recherches comme des trésors cachés, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir avec l'homme de Dieu de Timothée. C'est l'étape avant, une longue étape avant. Le proverbe s'adresse au fils, au jeune, qui est à un début d'un chemin et qui indique des directions et qui indique des choses à poursuivre, mais déjà à commencer. Si tu t'appliques, si tu cherches, etc. Et je crois qu'il y a une instruction, un enseignement à parcourir ces deux, trois premiers chapitres des Proverbes avec ce que nous sommes en train de lire en arrière-plan. Voilà le chemin qui amène à cet état d'homme de Dieu. Il commence par ces choses qu'évoque le début des Proverbes et qui sont là à poursuivre, mais qui trouvent leur commencement déjà en amont. Tout chemin a un commencement et il y a un moment où je veux faire le premier pas. Et quand on a fait le premier pas, on peut alors faire le deuxième. Et puis alors, poursuivre. Et il y a ces choses à fuir, c'est des obstacles qui peuvent arrêter cette course. Mais là, c'est poursuivre, continuer ce qui a été commencé déjà, peut-être un moment avant, peut-être longtemps avant, ou peut-être très peu de temps avant, poursuivre, aller plus loin. Alors bien sûr, le livre des Proverbes parle de sagesse, de connaissance. C'est d'autres expressions qu'on va trouver dans le Nouveau Testament, parce qu'ici, on a une révélation qui va beaucoup plus loin de ce que Dieu place devant nous. Ça porte d'autres noms. On a évoqué la piété, il y a la justice, la foi, l'amour, tout ce qu'on a devant nous, qui sont les contenus plus précis de ce chemin à continuer, à ne pas se laisser arrêter et à continuer.
Dans Hébreux 12, verset 14... On a un verset qui est un peu parallèle à celui que nous avons. Poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La paix et la sainteté. Pas la paix sans la sainteté. Pas la sainteté sans la paix. Poursuivez, recherchez, essayez de mettre en œuvre, de mettre en pratique la paix avec la sainteté. Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. C'est une sainteté de position. Là, c'est une sainteté pratique qui est issue de la discipline qui est acceptée de la part de Dieu. Si nous acceptons, si nous nous soumettons de cœur à la discipline que le Seigneur nous envoie, eh bien nous pourrons rechercher cela, poursuivre la paix et la
sainteté. Je pense que nous, dans le verset 11, auch an Christus denken können.
Je pense qu'au verset 11, on peut aussi penser à Christ.
Wir haben gehört, ein Mensch Gottes ist jemand,
nous avons entendu qu'un homme de Dieu est quelqu'un
der in einer schwierigen Zeit, wo nur wenige treu sind,
qui, dans un temps difficile où il n'y en a que peu qui sont fidèles,
Gott in einer bösen Welt repräsentiert.
Représente Dieu dans un monde méchant, mauvais.
Und nie hat es einen Menschen gegeben, auf den dieser Titel Mensch Gottes so zugetroffen hat wie auf Christus.
Et jamais il y a eu un homme à qui ce titre homme de Dieu correspondait comme Jésus-Christ.
Wir denken daran, dass er in einer Zeit gelebt hat, wo alle gegen ihn und gegen Gott waren.
Nous pensons qu'il a vécu dans un temps où tous étaient contre lui et contre Dieu.
Man sieht das zum Beispiel im Garten Gethsemane.
On le voit par exemple au jardin de Gethsemane.
Da verlassen ihn alle, sogar seine Jünger.
Tous le quittent, même ses disciples.
Und er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille, der Wille Gottes geschehe.
Et il dit, non pas ma volonté, mais la tienne, la volonté de Dieu, soit faite.
Und wenn Timotheus hier aufgefordert wird, diese verschiedenen Eigenschaften zu zeigen,
et si Timothée, ici, il doit montrer les différentes caractères.
Dann denken wir wieder an den Herrn Jesus.
Nous pensons de nouveau au Seigneur Jésus.
Der alles, was er tat, hatte, war gerecht.
Tout ce qu'il faisait était juste.
In Psalm 45 kann man lesen, dass er Gerechtigkeit geliebt hat.
En psaume 45, nous pouvons lire qu'il a aimé la justice.
Und heute Morgen haben wir im Gebet daran gedacht, dass er als der Gerechte für die Ungerechten gelitten hat.
Et ce matin, dans la prière, on y a pensé que lui, le juste, a souffert pour les injustes.
Und auch das zweite, Gottseligkeit, finden wir bei ihm in Vollkommenheit.
Et aussi la deuxième chose, la piété, on le trouve chez lui en perfection.
Wir haben das gelesen in 1. Timotheus 3, Vers 16.
On a lu en 1 Timothée 3, Verset 16.
Und dieser Vers sagt eigentlich, dass bis der Herr Jesus hier auf der Erde gelebt hat, man nicht wissen konnte, was ein Leben in Gottseligkeit wirklich bedeutet.
Et ce verset dit que jusqu'au moment où le Seigneur Jésus est venu ici et a vécu sur la terre, on ne pouvait pas savoir ce que signifie une vie en piété.
Dann glauben.
Après la foi,
da können wir denken an Hebräer 12, den Anfänger und Vollender des Glaubens.
On peut penser à Hébreux 12, le commencement et le comment? Chef et consommateur de la foi, voilà.
Oder Liebe. Alles, was er getan hat, hatte dieses Motiv der Liebe.
Ou l'amour, tout ce qu'il a fait avait ce motif de l'amour.
Er liebte seinen Gott,
il aimait son Dieu,
aber er liebte auch die Menschen.
Mais il aimait aussi les hommes.
Und das hat er gezeigt, als er sich auf Golgatha hingegeben hat.
Et ça, il a montré quand il s'est offert à Golgotha.
Dann lesen wir von Ausharren.
Après, nous lisons de patience.
Und Ausharren, das haben wir gehört, braucht man in Prüfungen.
Et la patience, nous l'avons entendu, on en a besoin dans des épreuves.
Niemand wurde geprüft wie Christus.
Personne n'a été éprouvé comme Christ.
Und niemand hat so vollkommen in so schweren Prüfungen ausgeharrt wie er.
Et personne a été aussi patient dans de telles épreuves comme lui.
Und dann das letzte Stück Sanftmut.
Et la dernière partie, la douceur d'esprit.
Da sagt in Matthäus 11.
Il dit en Matthieu 11.
Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig.
Apprenez de moi, car je suis humble de cœur. Non, doux. Débonnaire de cœur, voilà.
Ich finde das großartig, dass wir diesen Menschen Gottes in Christus vollkommen finden.
Je trouve ça impressionnant, grand, qu'on trouve cet homme pieux parfaitement en Christ.
Er hat das alles vollkommen ausgelebt.
Il a vécu tout cela en perfection.
Und der Blick auf ihn als diesen Menschen Gottes kann uns helfen.
Et de le regarder comme homme de Dieu peut nous aider.
Dass Gott auch über uns mehr sagen kann, dass wir Menschen Gottes sind.
Que Dieu puisse aussi dire de nous, plus dire de nous que nous sommes hommes de Dieu.
En relation avec ce qui vient d'être dit, on peut lire dans la seconde épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3, verset 5, « Or que le Seigneur incline vos cœurs à l'amour de Dieu et à la patience du Christ. Que nos cœurs soient inclinés à la patience de Christ. » Et encore dans 2 Corinthiens au chapitre 10, au premier verset, « Or moi-même, Paul, je vous exhorte par la douceur et la débonnaireté de Christ. » L'apôtre souligne à la fois la patience de Christ et la douceur et la débonnaireté de Christ pour le suivre.
Sur la douceur d'esprit, on relève juste ce verset de Philippiens 4, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, toutes les relations ». Un autre caractère de cette douceur dans 2 Timothée 2. Enseignant avec douceur les opposants, attendant si Dieu peut-être ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité. Un verset qui est impressionnant, d'enseigner avec douceur les opposants. Les opposants, ce sont des personnes qui résistent à la vérité, qui résistent à la parole de Dieu. Eh bien, le Timothée est appelé comme homme de Dieu à enseigner avec douceur les opposants. C'est bien, nous avons à l'apprendre.
Et on peut lire dans le psaume 37, psaume 37 de David, le premier verset. « Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne t'irrite pas. » La douceur d'esprit. Ne t'irrite pas. Il y a sans doute beaucoup de sujets d'irritation autour de nous ou dans nos familles. Ne t'irrite pas. Peace.